autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation sur Radio Mathématiques Internationales aujourd'hui. Entre Paris et Yaoundé, Rio de Janeiro, Tirana, Dar es Salaam et Kigali, regard croisé d'éminents mathématiciens et mathématiciennes sans frontières. Que ce soit géographique, humaine ou disciplinaire, histoire de fêter comme il se doit les 100 ans de l'Union Mathématique Internationale. Nous sommes en duplex à Lyon avec la professeure Laure Saint-Raymond qui vient d'être nommé professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques, après un parcours remarquable à l'ENS, couronné par de nombreux prix prestigieux, et par le lancement d'un nouvel institut des mathématiques de la planète Terre. Nous sommes également en direct par téléphone à Yaoundé, au Cameroun, avec le professeur Mama Fupuanini de l'université Yaoundé 1, président de l'Union mathématique du Cameroun et du réseau AIMS d'instituts d'excellence en sciences mathématiques sur le continent. Mama Fupuanini est également le représentant pour l'Afrique aux commissions pour les pays en développement de l'Union mathématique internationale, l'UMI, qui souffle donc cette année ses 100 bougies avec une seule envie: étendre et faire fructifier ce réseau sur tous les continents, d'est en ouest et du nord au sud. Autour de la question, pourquoi les mathématiques sont sans frontières? Bienvenue pour le savoir à l'écoute de tous ces grands esprits libres, à commencer par l'un des plus brillants d'entre eux, le mathématicien Alain Cohn, lauréat de la médaille Fields pour avoir entre autres révolutionné la théorie des algèbres de von Neumann.
Le seul message que j'ai envie de donner, c'est à quel point les mathématiques sont un territoire ouvert. C'est-à-dire qu'il y a quantité de questions qui souvent peuvent être des questions relativement simples, mais très très intéressantes. Et en particulier, je me suis intéressé depuis un certain temps à ce qu'on appelle la caractéristique 1. Et je me suis aperçu effectivement que ce formalisme algébrique que j'utilisais pour bien d'autres buts était en fait utilisé dans le machine learning. Donc il y a tout un territoire à comprendre, il y a quantité de choses à explorer. Et je pense que c'est une période très très propice justement pour de jeunes mathématiciens pour commencer. Et surtout alors, il faut absolument un autre message, qu'ils évitent d'être impressionnés par le dogmatisme de certaines cliques, etc. Donc qu'ils se sentent libres. Et que finalement, le moment où on devient mathématicien, c'est le moment où on n'a pas la même opinion que l'opinion générale, et qu'on arrive à avoir un point de vue très particulier, et qu'on y tient, et qu'on le fait fructifier au fil des années, etc. Donc c'est vraiment ça, la naissance.
La naissance d'un mathématicien comme Alain Cohn ou d'une mathématicienne. Bonjour, professeur Laure Saint-Raymond.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis Lyon. Alors, la mathématicienne que vous êtes a peut-être quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Alain Cohn sur, comment faire des mathématiques, révolutionner la pensée habituelle ou la pensée courante.
Alors, j'ai envie de dire que je partage tout à fait avec lui cette idée de très grande liberté. Je pense que les mathématiques, en fait, sont un langage, et un langage qui nous permet d'aller sans doute plus loin, qui donne une plus grande capacité d'abstraction et d'aller plus loin que nos langages respectifs. Et je pense que, donc, au-delà de la liberté et de l'ouverture qu'il y a au sein des mathématiques, ça permet aussi d'aller, je pense, au-delà des mathématiques. Moi, j'aime beaucoup travailler à la limite avec la physique.
Oui.
Et je crois que les mathématiques permettent de modéliser, d'attraper des concepts par leur capacité d'abstraction, en fait. Et ça, je crois que c'est il y a à la fois cette liberté et une certaine esthétique. Je crois que pour moi, les maths, c'est une science, mais c'est aussi un art.
C'est aussi un art, hein, c'est ça. Donc liberté, esthétique, la beauté, on y reviendra peut-être. Vous êtes évidemment très sensible à la beauté des mathématiques. Et effectivement, sans frontières, pour vous, ça veut aussi dire sans frontières disciplinaires, interdisciplinaires. Je rappelle que vous venez d'être nommée professeure permanente donc à l'IHES, à l'Institut des hautes études scientifiques, après un parcours très brillant de chercheuse. Vous aimez donc travailler avec les physiciens. Vous aimez les connexions surprenantes entre champs disciplinaires apparemment éloignés et vous êtes en charge aujourd'hui, Laure Saint-Raymond, d'un nouvel institut mixte, de mathématiques appliquées à la planète Terre. On va y venir autour de la question pourquoi les mathématiques sont sans frontières. Nous sommes également très heureux d'être en ligne à Yaoundé, au Cameroun, avec vous, professeur Mama Fupuanini. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci professeur Mama Fupuanini de prendre sur votre temps, car je sais que vous organisez en ce moment même un séminaire dans votre université Yaoundé 1, un séminaire sur l'utilité des savoirs inutiles. Alors, je trouve l'intitulé magnifique pour mettre en avant évidemment la recherche fondamentale en mathématiques, mais c'est aussi finalement une sorte de d'ajout à ce que disait Alain Cohn à l'instant, c'est-à-dire que la liberté aussi de se rendre compte de l'utilité, non pas des savoirs inutiles, mais des savoirs peut-être fondamentaux, c'est ça ?
Oui, absolument. Donc, je commencerai par dire que je partage aussi le commentaire d'Alain Cohn. Il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Le formalisme mathématique qu'il a développé, qui finalement est utilisé dans l'intelligence artificielle. Et nous savons l'importance de l'intelligence artificielle dans le monde de nos jours. Pendant qu'il développait le formalisme, on avait l'impression que c'était inutile puisqu'on ne voyait pas l'utilité. Mais de nos jours, que ça ait des applications en intelligence artificielle qui est donc indispensable pour notre vie en ce moment, c'est une bonne preuve qu'il n'y a pas de savoir inutile, même si les applications tardent à venir.
Et c'est aussi finalement une manière de dire il n'y a pas de savoir inutile, donc effectivement les applications peuvent tarder à venir et il n'y a pas d'assignation non plus aux chercheurs selon leur pays à avoir le droit de travailler ou pas sur des savoirs utiles ou inutiles, professeur Mama Fupuanini.
Non, non, absolument pas. Il y a les franchises universitaires, il y a la liberté académique. Je pense qu'il faut juste de l'excellence dans la recherche. C'est ce qui importe, parce que on sait, on commence une idée de recherche, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle nous conduit. Il faut laisser l'esprit libre, avoir de bonnes conditions de travail et juste l'excellence. Et ça me permet de revenir sur le séminaire de Boussier-Humboldt qui a commencé à Yaoundé ce matin.
Oui.
Effectivement, le titre, c'est sur l'utilité des savoirs dits inutiles. Alors, la problématique ici, c'est quoi ? C'est que on a tendance à vouloir conseiller à tout le monde d'aller vers les sciences très appliquées parce que à cause des problèmes de financement, à cause des exigences des bailleurs.
Mm-hmm.
Mais ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, les résultats qui hier étaient perçus comme inutiles sont devenus indispensables. Je prends l'exemple du GPS qui a utilisé la relativité générale d'Einstein qui,
bien
à
sûr,
un moment donné, n'était pas perçu comme très...
Mm-hmm.
Donc, je peux parler du formalisme de professeur Alain Cohn qui aujourd'hui s'applique en intelligence artificielle. Donc, nous voulons attirer l'attention des décideurs sur la nécessité de financer tout type de recherche, mais être exigeant sur l'excellence.
Et
donc,
voilà,
laisser l'esprit libre se développer.
Et c'est ça. Et cette excellence-là, hein, vous essayez de la développer sur le continent et dans votre pays, hein, professeur Mama Fupuanini, puisque je rappelle que vous êtes à la fois le directeur d'AIMS, donc cet institut d'excellence en sciences mathématiques au Cameroun, mais aussi de tout ce réseau d'instituts d'excellence qui se déploie aujourd'hui sur le continent. Vous êtes aussi président de l'Union mathématique du Cameroun et représentant Afrique, je l'ai dit, aux commissions pour les pays en développement de l'Union mathématique internationale, dont on fête le centenaire. Est-ce que c'est un combat sur le continent de soutenir justement les jeunes chercheuses, du côté de l'excellence, justement, du côté de l'excellence, du côté de la recherche fondamentale ? C'est compliqué, c'est difficile, professeur ?
Disons que c'est une nécessité.
Mmh.
Alors, je vais vous dire que dans le rapport de l'UNICEF de 2017, Africa 2030, c'est clairement écrit qu'en 2050, 40% des jeunes de 18 ans et moins viendront de l'Afrique.
Mmh.
Et en 2100, 50% des jeunes jusqu'à 18 ans viendront de l'Afrique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique va influencer le développement du monde entier. Mmh. Ou bien l'avenir du monde entier dépendra aussi de l'Afrique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, maintenant, c'est sur les mathématiques. Si nous percevons les mathématiques comme une activité humaine, une partie de notre culture, une boîte à outils pour résoudre nos problèmes quotidiens, et finalement un outil de base essentiel pour la haute technologie, vous comprenez qu'il est important et indispensable de développer les mathématiques à partir de l'Afrique pour l'avenir du monde entier. Donc, pour dire que le développement des mathématiques par M est une nécessité, on n'a pas beaucoup de choix. Alors, l'Institut africain de sciences mathématiques, oui, allez-y.
Oui, je voulais juste rajouter une troisième remarque, c'est que ce combat, il n'est pas juste en Afrique, il est partout. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que le temps de la recherche n'est pas de la même temporalité que celle du politique, des décideurs, des financeurs. Expliquer que la recherche a besoin de temps et qu'il faut laisser la liberté aux jeunes chercheurs, c'est un combat, je pense, un peu partout dans le monde. Voilà, je pense que c'est pas spécifique à l'Afrique.
On va y revenir hein, à la fois sur l'Afrique, sur le reste du monde, sur cette boîte à outils, mais c'est bien plus que ça, les mathématiques, hein, comme le souligne d'ailleurs un auditeur au Cameroun, les mathématiques sont partout. Et je vous propose maintenant de nous tourner vers un autre pays du Sud, sur un autre continent, l'Amérique latine. Un éclairage en forme de témoignage, cette fois-ci, c'est celui du lauréat franco-brésilien de la médaille Fields. Je rappelle que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Alors, c'est le lauréat 2014 de la médaille Fields, Arthur Avila, devenu une célébrité d'ailleurs au Brésil dans son pays, qui a partagé avec nous, c'était ici même, les plus et les moins, j'ai envie de dire, de sa formation mathématique, d'abord au Brésil, puis en France, en nous rappelant que même si son pays est à la traîne, hein, véritablement, pour ce qui est de l'enseignement des mathématiques, la création tout de même, il y a déjà plus de 50 ans, de l'IMPA, l'Institut National de Mathématiques Pure et Appliquée au Brésil, lui avait ouvert en tout cas déjà les portes de l'excellence. On écoute Arthur Avila et vous réagirez tous les deux ensuite.
Il y avait des gens qui ont décidé d'implanter une école de haut niveau. Et en maths, on n'a pas besoin de tellement de ressources financières parce qu'on n'a pas besoin d'un grand labo. On a essentiellement besoin de bonnes ressources humaines et laisser les chercheurs tranquilles, laisser la liberté et essayer d'attirer les gens de haut niveau. Donc, un groupe d'abord petit, des gens bien motivés, avec déjà des compétences mathématiques, qui étaient formés aux États-Unis d'abord, et on essaie de créer cette école. Et ils étaient persistants, et ils ont toujours eu comme objectif cette excellence scientifique. Donc ils n'ont pas essayé de trop élargir les champs d'activité avant que ça soit au niveau, parce que sinon ça ne se développerait pas aussi vite. Donc, ce n'est pas comme on est à Paris, où on voit représenter toutes les maths, d'accord, avec une quantité énorme de chercheurs de haut niveau. Donc là, c'est, bien sûr, il y a un nombre beaucoup plus petit, mais ils sont de niveau international.
Donc ça peut être une piste hein, pour les pays émergents ou en voie d'émergence, de choisir l'excellence. En même temps, vous, Arthur Avila, vous continuez à travailler à l'IMPA, donc au Brésil, à Rio. Vous êtes aussi venu à Paris, pourquoi? Parce qu'en France, il y a une école mathématique renommée avec, comme vous le disiez, peut-être plus de laboratoires, plus de chercheurs. Vous êtes et franco et brésilien aujourd'hui.
Après mon doctorat, mon emploi, c'était ici d'abord en postdoc, et puis au CNRS, j'ai passé 5 ans. J'ai complété un peu ma formation. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, exactement parce qu'on était focalisé à l'IMPA sur certaines directions. Donc ici, j'ai appris beaucoup de choses. Donc mes travaux sur le billard, par exemple, j'ai commencé à développer ici, je ne faisais pas ça avant. Donc j'étais très content, donc je vois l'importance d'avoir cette exposition aux maths faite par beaucoup plus de gens.
Donc je suis content d'être là. Revenir aussi, faire l'aller-retour entre les deux.
Il y a des avantages. Un, qui pour moi, c'est que ça change un peu. Ici, tout se passe très vite. On a quand même, de temps en temps, beaucoup de choses qu'on a exposées. Et après, il faut réfléchir. C'est un peu plus facile de les faire à Rio, où on est un peu plus éloigné. J'invite des gens ponctuellement. Donc, j'ai un seul invité pendant très longtemps pour discuter. Ici, il y a toujours plusieurs personnes qu'il faut discuter. Donc, c'est un rythme un peu différent. Et c'est bien aussi pour les institutions. L'autre avantage, c'est que c'est intéressant d'avoir cette coopération internationale qui marche, c'est pas nouveau, c'est depuis des décennies. Mais que maintenant, c'est une bonne opportunité que je sois dans cette position pour attirer des échanges, donc des élèves qui viennent du Brésil ici ou des Français qui vont au Brésil. Et c'est bien cette coopération entre les écoles.
Qui veut réagir à cet éclairage d'Arthur Avila, franco-brésilien, médaille Fields, Laure Saint-Raymond?
Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que je pense qu'il est le mieux placé pour discuter de cette situation. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans ce qui est peut-être en pointillé dans ce qu'il dit, mais que la recherche a vocation à être internationale, pas seulement parce qu'il faut qu'il y ait de la recherche partout, mais parce que la diversité est vraiment un atout.
La diversité, créatif. Oui, c'est ça, pour être développer un peu là-dessus, en tant que mathématicien, la diversité, quoi, de point de vue, d'approche, d'école.
La diversité de plein de choses, la diversité de formation, je pense, de culture, je dirais, mathématique, la diversité du rapport au temps, c'est que je pense que
ce que disait Arthur Avila
expliquait bien, oui. La diversité, aujourd'hui, c'est un grand thème dans beaucoup d'endroits, la diversité de genre, la diversité sociale. Et je pense que tout ce qui fait que les gens ne réfléchissent pas de la même façon, en fait, pour moi un atout parce que quelque part il me semble que quand on regarde comment se fait la recherche, et c'est difficile à partager en quelques mots là maintenant, mais quand on regarde les mécanismes selon lesquels on commence à comprendre une idée et on avance, et ben il me semble que le fait de confronter plusieurs points de vue, plusieurs représentations abstraites d'un même objet, c'est quelque chose qui fait beaucoup avancer. Moi j'aime beaucoup travailler en collaboration avec d'autres gens, et le fait de formaliser, de rentrer aussi dans un point de vue un peu différent, dans une représentation différente, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes, et je pense que c'est comme ça qu'on avance ensemble. Et donc pour moi, le fait qu'on ait besoin d'une recherche internationale aujourd'hui, c'est d'une part parce que tous les pays probablement ont besoin d'avoir cette culture scientifique, mais c'est aussi parce que la recherche en tant que telle a besoin de gens qui viennent d'horizons très différents.
Professeur Mamafou Poignini, on vous avait perdu mais on vous a retrouvé, et j'aimerais bien vous faire réagir, donc en direct par téléphone depuis Yaoundé au Cameroun, à la fois sur cet éclairage d'Arthur Avila sur l'excellence finalement de l'école mathématique brésilienne, mais aussi sur l'avantage d'être entre deux cultures, d'échanger, ou ce que vient de nous dire aussi Laure Saint-Raymond sur le besoin de diversité, de confronter les différentes abstractions et de confronter les points de vue.
Oui, j'ai retenu des propos de Arthur que je salue. Deux choses. La première, c'est la nécessité d'interagir, de croiser les points de vue. Et la deuxième, c'est le coût de la formation en mathématiques. Et par rapport à l'Institut africain des sciences mathématiques, notre modèle pédagogique intègre bien ces deux remarques. Un, nos enseignants viennent du monde entier, parmi lesquels les prix Nobel et des médailles Fields. Donc, ça nous permet d'avoir des différentes opinions et d'interagir avec pas mal de chercheurs de différents horizons. Et effectivement, on n'a pas besoin d'une fortune pour apprendre les maths, parce que finalement, on a besoin de la matière grise et d'un minimum de conditions de travail. Donc, pour dire que à l'Institut africain des sciences mathématiques, effectivement, nous sommes notre modèle pédagogique est en ligne avec ce que Arthur a dit.
Oui, c'est ça. C'est vraiment ce réseau, donc AIMS, Institut africain de sciences mathématiques. Maintenant, ça commence à être, c'est un réseau d'instituts d'excellence hein, sur tout le continent. Et l'idée, c'était vraiment ça, d'avoir des professeurs excellents, d'avoir un enseignement en anglais et en français. C'est de tirer vers l'excellence. Et il n'y a pas de raison que sur le continent africain, les mathématiciens ne soient pas tirés vers l'excellence. C'est ça aussi.
Oui, absolument. En peu de mots, si nous voulons caractériser le réseau M, les meilleurs étudiants africains, hautement motivés, sont mis dans d'excellentes conditions de travail et formés par d'excellents enseignants venant du monde entier, parmi lesquels les prix Nobel et les médailles Fields. Voilà, en résumé, les centres M. Donc, si je peux dire un peu plus, avant de vous parler de l'impact du réseau M, on a quatre valeurs qui sont fondamentales, à savoir l'excellence, le respect, le panafricanisme et l'intégrité. Chaque centre M, chaque étudiant de M en sort avec ces quatre valeurs qui sont fondamentales pour nous. En termes d'impact, je dirais, il y en a six. Nous sommes implantés dans cinq pays africains. l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et le Rwanda. En septembre 2021, nous avons 2494 alumni, les lauréats de EMS.
Oui.
Et qui viennent de 44 pays africains sur 55. Ça veut dire que nous couvrons déjà 80% de l'Afrique en termes de géographie.
Et vous avez des mathématiciens et des mathématiciennes, hein, c'est ça, hein?
Et justement, sur les 2494, 33% sont des femmes. Alors, essayez de demander à d'autres universités africaines et même européennes combien de femmes mathématiciennes on forme par an. 33%, ça a l'air petit, mais dans le contexte africain, c'est énorme.
Ah bah c'est énorme, donc, même dans le contexte mondial, Laure Saint-Raymond, non ? C'est quand même bien, 33%.
Oui, en France, on est largement... Alors, c'est difficile de combien on en forme, c'est peut-être cet ordre-là, mais combien après on recrute dans le monde académique, on est bien en dessous.
On est bien en dessous, hein, pour, face à ce plafond de verre. Allez, on continue de s'interroger autour de la question, pourquoi les maths n'ont pas de frontières, n'ont aucune frontière ? Après un petit clin d'œil musical, bah justement, à Arthur Avila, qu'on a écouté au Brésil, mais aussi à tous les étudiants et étudiantes de tous les continents qui nous écoutent avec leur cœur. Cœur d'étudiant, Corinthien di Estudante, Milton Nascimento sur RFI.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda. Deve estar dentro do peito ou caminhar pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Oh, a folha da juventude. É o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há quem se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. Oh,
Milton Nascimento, Corinthien di Estudante sur RFI. Et pour juste le plaisir de la petite histoire, de l'anecdote, le père de Milton Nascimento, formidable musicien brésilien, était professeur de mathématiques au Brésil. Autour de la question, pourquoi les mathématiques n'ont pas de frontières ? Nous sommes en ligne avec le professeur Mama Fupuanini à l'université de Yaoundé au Cameroun, qui dirige les instituts de sciences mathématiques sur le continent africain, en duplex à Lyon avec la mathématicienne Laure Saint-Raymond, professeur à l'IHESS, et ensemble nous fêtons à notre manière le centenaire de l'Union internationale des mathématiques, que vous avez d'ailleurs fêté, Laure Saint-Raymond, à l'Université de Strasbourg cet automne. Un de nos auditeurs à Kinshasa nous demande quel rôle peuvent jouer les mathématiques si elles n'ont pas de frontières. Et il ajoute, en ce moment de crise sanitaire, alors je sais, Laure Saint-Raymond, que vous êtes en train de monter un institut de sciences mathématiques pour la planète Terre. Quel rôle immense peuvent jouer les mathématiques aujourd'hui, qui sont quand même partout, ce que nous rappelle aussi un autre auditeur sur les réseaux sociaux, Laure Saint-Raymond.
Alors, je crois que ce que j'ai mentionné un petit peu au début de cette émission, pour moi, les mathématiques ont la force d'un langage qui a une certaine capacité d'abstraction, et donc la capacité, je pense, de pouvoir prendre en compte des contraintes assez voilà, qui viennent de façon assez, assez variée. Donc, je pense que sur la question de la planète Terre, où il y a à la fois des questions de physique, de géophysique, de climat, et puis de l'autre côté, de biodiversité, des facteurs économiques, des contraintes sociales, eh bien, je pense que les maths ont un rôle à jouer. Évidemment, il est peut-être pas central, mais je pense à un rôle à jouer de finalement d'intermédiaire. Ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on peut penser que c'est plutôt satellite, mais je pense que
d'intermédiaire, un langage entre les disciplines pour modéliser, pour relier, pour faire. C'est un peu ça.
Pour modéliser en fait, pour modéliser. Je pense qu'on a un langage qui permet de traduire dans des mêmes termes des contraintes qui viennent de disciplines assez différentes. Donc, pour moi, les maths peuvent être aussi ce vecteur d'interdisciplinarité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction directe entre la physique et la biologie, mais voilà, il me semble que les maths peuvent jouer ce rôle un petit peu de médiateur, en fait.
Vous-même, vous travaillez, hein, alors Saint-Raymond, vous menez des recherches un peu, enfin, avec des physiciens, notamment sur les courants océaniques, si je ne m'abuse. Enfin, voilà, des questions vraiment très... vous faites le lien avec des physiciens pour travailler sur des grandes questions, des grandes contraintes de la planète Terre aujourd'hui.
Tout à fait. Je pense qu'il faut être assez clair, c'est-à-dire que sur la plupart des choses, les matheux ont souvent un petit métro de retard, on pourrait dire. c'est-à-dire que les phénomènes ont souvent été découverts avant qu'on arrive. Mais ce que je voudrais dire, c'est que des phénomènes qui ont été découverts dans un cadre particulier, je pense par exemple au phénomène de couche limite. Donc c'est tout ce qui se passe près des bords qui ont été découverts dans les premières expéditions polaires. Eh bien, en fait, comme on traduit ça dans un langage assez abstrait qui se détache finalement du contexte précis, eh bien, on est capable de réutiliser ces mêmes outils pour des problèmes complètement différents. Donc, par exemple, nous, il y a quelques années, on a étudié des tourbillons océaniques en utilisant des méthodes qui initialement avaient été développées pour la mécanique quantique. Donc, rien à voir en termes de physique ou d'échelle. La mécanique quantique, c'est la physique des toutes petites échelles. Un tourbillon océanique, c'est 10, 100 kilomètres. Donc, voilà, ce qui me paraît important, c'est voilà, de dire que finalement, avec cette capacité d'abstraction, eh bien, on est capable de faire des ponts entre des disciplines qui, peut-être, spontanément, ne se seraient pas parlé. Voilà, donc après, il y a un immense travail à faire parce que de traduire de la physique en maths ou plus difficile de la biologie en maths ou encore plus difficile des sciences sociales qui ont moins l'habitude d'être quantifiées, modélisées avec des maths. Voilà, il y a énormément de travail à faire et je pense que c'est vraiment important de travailler ensemble. Mais voilà, pour moi, c'est important que ce ne soient pas des frontières étanches et qu'on puisse avoir vraiment des collaborations pour aller plus loin ensemble.
Professeur Mama Fupuanini, je voudrais vous faire réagir là-dessus aussi parce que effectivement, c'est vraiment une histoire de faire des ponts. Il faut aussi que ces outils mathématiques qui permettent de faire des ponts entre toutes les disciplines, de travailler aussi bien avec des physiciens qu'avec des chercheurs en intelligence artificielle, puissent se développer sur le continent africain.
Oui, absolument. Déjà, à l'Institut africain des sciences mathématiques, nous parlons des sciences mathématiques.
C'est ça,
qui
des
sont
sciences.
Beaucoup plus larges que les mathématiques. C'est tout le domaine de la science qui utilise des outils mathématiques solides. Donc, pour moi, je dirais que les maths, en réalité, sont indispensables. Vous voyez, quand vous avez fini de comprendre un phénomène naturel, vous cherchez à établir des relations entre les grandeurs. Et là, bienvenue aux équations différentielles, voilà. Et quand on a fini de comprendre un phénomène naturel, ce qui reste, c'est les maths. Alors, un exemple plus simple pour les non-spécialistes, nous sommes tous des salariés. Et à un moment donné, nous allons en banque pour solliciter un crédit. Alors, il y a trois paramètres. Il y a le taux d'intérêt, il y a le remboursement mensuel et il y a la durée du crédit. Donc, la formule qui vous donne ce paramètre en fonction de trois autres, si vous dites j'ai besoin d'un million d'euros, mon salaire c'est tel, la banque a déjà son taux d'intérêt, cette formule-là utilise les équations aux différences, la suite géométrique, arithmético-géométrique. Mm-hmm. Donc, c'est un problème simple de la vie, mais qui est résolu par les mathématiques. Donc, c'est, quand le banquier vous donne la simulation du crédit, derrière ça se cache des mathématiques, parfois élémentaires, parfois un peu moins, mais des mathématiques...
Autour de la question pourquoi et comment justement développer les mathématiques sans frontières puisqu'elles sont utiles et présentes, on s'en rend compte dans tous les domaines pour faire des ponts, pour modéliser et même pour la vie courante. Je propose un nouvel éclairage recueilli par notre reporter Charlie Dupuyot. C'était dans le cadre d'une journée spéciale organisée à l'UNESCO par le CNRS et le Centre international de mathématiques pures et appliquées, Math Day for Development en bon français, la journée des mathématiques pour le développement. C'était en mai 2019. Écoutez voir le témoignage d'une jeune mathématicienne tanzanienne, Angelina Bujura, directrice de l'Inspire Secondary School à Dar es Salaam. Angelina est également secrétaire du réseau de recherche sur l'enseignement des mathématiques en Afrique de l'Est.
I discovered that I can do mathematics when I was 12 years old.
J'ai découvert que j'avais envie de faire des maths à l'âge de 12 ans. Dès lors, j'ai compris que si l'on enseignait bien les mathématiques à un enfant, il peut mieux les comprendre, comprendre leur sens. Et c'est pour ça que j'aime enseigner les mathématiques. Il y a une vraie beauté dans la façon dont on pense en mathématiques, les modèles qu'on élabore. On sait ce qu'on veut en mathématiques, ce qu'on cherche. C'est ce que j'aime le plus dans cette matière.
My hope is that it will change the way the teaching and learning of mathematics.
Mon espoir, ce serait de changer la façon dont les mathématiques sont enseignées en Tanzanie. Nous avons un enseignement de mauvaise qualité dans cette matière. C'est un problème. Nous n'avons pas assez d'enseignants qualifiés. Et au sein de l'université de Dar es Salaam, qui est notre université principale en Tanzanie, où des programmes de mathématiques sont proposés, ils sont seulement près de 30 étudiants à étudier les maths, alors que des centaines, des milliers d'autres s'intéressent aux autres matières. Si nous voulons développer notre pays, il va falloir changer notre façon d'apprendre les mathématiques.
Professeur Mama Fupuanini, j'ai envie de vous faire réagir depuis Yaoundé au Cameroun à cet éclairage, la mathématicienne tanzanienne Angelina Bujura. Comment faites-vous, vous, à l'université de Yaoundé et dans les instituts d'excellence en mathématiques sur le continent pour attirer les étudiants, les étudiantes?
Disons, dans le cadre de l'Institut africain des sciences mathématiques, nous nous sommes rendus compte que l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au niveau du secondaire posent problème et avons mis sur pied un projet qu'on appelait Teacher Training Project, projet de renforcement des capacités des étudiants. Ça, nous l'avons mis en place au Cameroun, au Rwanda, en Afrique du Sud.
Déjà au niveau du secondaire, déjà.
Au niveau du secondaire, parce que nous avons besoin que nos futurs étudiants soient bien formés. Et on se rend compte, pour le cas du Cameroun, que le taux de succès en maths au BEPC et au GCE, au level, c'est 5%. Imaginez-vous que 95% des jeunes qui vont nous diriger demain n'ont pas une bonne maîtrise de maths. C'est un problème à long terme. Donc nous avons mis sur pied le projet de renforcement des capacités des enseignants du secondaire. Et dans le cas du Cameroun, nous avons formé en 4 ans, nous avons renforcé les capacités de 2000 enseignants sur le terrain, parmi lesquels 850 viennent du sous-système anglophone, puisque le Cameroun est bilingue.
Et oui.
Nous sommes conscients et nous avons mis sur pied un projet qui permet d'apprendre les maths, pas seulement comme un savoir, mais aussi comme un outil de développement et d'améliorer la perception des mathématiques par la société, par les parents et par nos dirigeants.
Mais ça, c'est vraiment des questions alors, qui se posent sur le continent, qui se posent au sud et qui se posent aussi au nord. Véritablement, c'est la question de la culture scientifique en général. Un de nos auditeurs à Abidjan, cette fois-ci, nous demande sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous poser la question, Laure Saint-Raymond, est-ce que les mathématiques sont interculturelles? Vous parlez d'un langage commun. Il nous demande, est-ce que chaque culture a sa conception des mathématiques? Que pouvez-vous lui répondre, Laure Saint-Raymond?
Alors, est-ce que je pense que chaque personne a sa conception des mathématiques,
voilà.
En fait.
Oui, c'est ça, chaque cerveau, finalement.
Je pense que le langage, il est commun à tous. Mais que par contre, en fait, comme c'est les objets qu'on manipule sont des objets assez abstraits, eh bien, chacun a sa représentation mentale, je pense, de ces objets qui est forcément un petit peu différente. Si on demande aux gens de faire un dessin de ce à quoi ils pensent, je pense qu'on n'obtiendra jamais exactement deux fois le même dessin. Donc voilà, je pense que c'est important et je pense qu'on ne fait pas suffisamment toucher du doigt cet aspect. En fait, je pense que les maths qu'on enseigne, mais y compris en France aussi, hein, dans l'enseignement primaire et secondaire, sont très techniques en fait. Et moi j'aime bien cette comparaison de dire, c'est comme si on voulait apprendre aux gens à lire, et puis à l'école primaire, on leur apprenait que les lettres, et puis peut-être comment B et A, ça fait bas, mais sans jamais leur dire qu'avec un mot, on va pouvoir raconter une histoire. Et je crois que les mathématiques, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire, je pense qu'on a beaucoup de gens qui décrochent. Alors, bon, je pense qu'il y a aussi que historiquement, ça a toujours été une matière de sélection, et c'est probablement dommage. Mais pour moi, ce qui est vraiment important dans les mathématiques, c'est cette capacité de déduction, en fait, de comprendre le raisonnement. Et puis, qu'un raisonnement, il y a une certaine esthétique, en fait, dans un raisonnement. On a mentionné à plusieurs reprises, Mama a mentionné le mot d'excellence, et je trouve que c'est un mot qui peut faire peur aussi. C'est un mot qui, je pense, pour les gens, renvoie à quelque chose comme une très bonne note ou quelque chose qui est un exercice qui est parfait. Et je crois que c'est important de dire aussi que pour faire des maths bien, il faut se tromper beaucoup et qu'on apprend en fait de ses erreurs.
Voilà, pour c'est moi, important, c'est vraiment... les erreurs aussi, ouais, bien sûr.
Exactement, je pense que c'est important d'entendre que les mathématiques, c'est quelque chose auquel qu'on apprend en s'y frottant, en ratant, en recommençant, et puis au fur et à mesure en ayant une construction mentale qui est de plus en plus précise. Et donc pour moi, l'excellence ici, elle est plutôt une affaire de, à la fois de créativité, d'imagination, et puis de persévérance, en fait, d'être capable de justement de se dire, ça marche pas, mais je vais essayer autre chose, je vais essayer une autre idée. Et ça, je pense que c'est important. On le dit pas assez, on apprend de la technique, finalement, on apprend du calcul, on apprend peut-être un petit peu de géométrie élémentaire, des règles qu'il faudrait appliquer comme ça. Mais je crois qu'on rate, en fait, ce qui fait vraiment l'essentiel des maths. Et donc voilà, donc je pense qu'effectivement, si quelqu'un dans la rue, on explique que les maths, c'est un art, il va me regarder avec des grands yeux ronds
mais il y a cette partie-là qu'il faut mettre en avant aussi. Professeur Omar Fupuanini, vous voulez réagir là-dessus? Parce que je trouve ça intéressant, comme Laure Saint-Raymond parle d'un art, parle de la beauté, de l'esthétique des mathématiques, du raisonnement et de ce que ça implique, au lieu de nous faire peur, finalement, avec des équations. Vous pensez que là aussi, il y a peut-être quelque chose à creuser pour faire des ponts, justement, aussi, entre les disciplines, pour faire cette culture scientifique qui manque désespérément partout, hein, au nord comme au sud. Mama Fupuanini.
Oui, quand nous regardons les mathématiques comme une boîte à outils pour résoudre nos problèmes quotidiens, c'est une façon de rapprocher le commun du mortel des mathématiques. C'est pour éviter cette peur. Et quand on parle des mathématiques comme une activité humaine, c'est pour dire aux parents des enfants les plus brillants de laisser leurs enfants apprendre les maths parce que les maths sont importantes. Donc, pour parler de l'interculturalité culturalité dont Laure a parlé, à EMSC, l'Institut africain des sciences mathématiques, un centre a un programme de master d'en moyenne 50 étudiants parce que c'est un centre excellent, dont le nombre est limité pour améliorer l'encadrement, qui viennent d'une vingtaine de pays entiers. Alors, les langues, il y a en moyenne trois langues qui se côtoient, le français, l'anglais et l'arabe. Donc, ils réussissent à s'entendre, ils vivent ensemble dans un internat, dans un centre M, étudient ensemble. Donc, c'est là où les cultures véritablement se mélangent, dans un climat panafricain où tous les étudiants se voient comme des frères et des sœurs. Et ça marche très bien. Et en un an, ils apprennent sans véritablement se rendre compte de la limite linguistique ou culturelle. Pour le cas du Cameroun comme un pays bilingue, aux anglophones, nous apprenons le français et aux francophones, nous apprenons l'anglais d'entrée de jeu. Mais à la fin de l'année, un mémoire est rédigé et soutenu en anglais parce que c'est la langue
de la science. Bien sûr, bien voilà. Sûr. Là, c'est vraiment des mathématiques sans frontières hein, qu'on continue de célébrer avec vous deux, donc avec Laure Saint-Raymond en duplex depuis Lyon, avec vous, professeur Mamafou Poignini, en liaison téléphonique depuis Yaoundé au Cameroun. Et on célèbre ce centenaire de l'Union internationale des mathématiques en musique maintenant avec une petite pépite, à la fois poétique et mathématique, signée Silom sur RFI.
Comme une formule mathématique qu'on calcule, à la pensée ce préambule de la pensée qui capitule. Croître la formule omnibule, des uns la fortune s'accumule, aux autres les petits pécules, à nous tous le ridicule. Les bulles, spéculatives funambules, jeu des immaculées crapules qui s'émulent sans scrupule. Et les funérariums brûlent, ce qui finit sur les rotules. Au bras de la mort, on accule des pourcentages à virgule. Mais si tu crois résoudre l'algorithme de nos cœurs, j'espère que tu connais le goût des rires et des pleurs.
Si l'homme fait des rimes mathématiques en hule sur RFI, autour de la question pourquoi les maths sont sans frontières, nous nous interrogeons pour les 100 ans de l'Union Mathématique Internationale avec la professeure Laure Saint-Raymond de l'IHES en duplex avec nous depuis Lyon, où elle monte aussi le premier institut des mathématiques de la planète Terre. Nous sommes également en ligne par téléphone avec le professeur Mamafou Poignini en direct depuis son université de Yaoundé 1 au Cameroun, où Mamafou Poignini dirige aussi l'Institut d'Excellence en sciences mathématiques du Cameroun, du réseau EMS, dont il est aussi le directeur pour l'Afrique. Un réseau qui récompense tous les deux ans les plus performantes, les plus brillantes têtes chercheuses du continent avec le programme Next Einstein Forum. Le prochain Einstein sera africain ou africaine. Alors le dernier Next Einstein Forum en présentiel s'est tenu à Kigali, au Rwanda, en 2018. J'ai eu la chance d'y rencontrer de formidables mathématiciens et mathématiciennes comme Amidou Tembiné, que je vous propose d'écouter tout de suite. Ce mathématicien malien, expert de la théorie des jeux, a étudié successivement au Mali, au Maroc, à l'École Polytechnique en France et aux États-Unis, où il était professeur assistant à l'Université de New York, quand je l'ai rencontré au Next Einstein Forum à Kigali en 2018 donc, où ses recherches tombaient véritablement à pic, à point nommé. Depuis, Amidou Tembiné a publié plusieurs ouvrages et animé de nombreuses formations sur le continent. On l'écoute.
Je travaille sur la théorie des jeux depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Alors, la théorie des jeux, c'est un outil d'analyse, d'interaction entre les gens. Ça peut être des personnes, ça peut être des entreprises, ça peut être des institutions, des animaux, des machines. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui est versatile, qui est transversal, qui est interdisciplinaire. Et donc, c'est une occasion d'utiliser cette théorie pour collaborer notamment entre chercheurs en Afrique.
Alors, on peut s'inspirer de cette théorie pour rester en réseau, pour faire des liens.
Tout à fait. Donc, la théorie concerne la collaboration. Ça concerne la compétition, ça concerne aussi la coopétition. Ça veut dire que c'est de la coopération compétitive ou de la compétition coopérative. Donc, la rencontre entre chercheurs peut déclencher de nouvelles idées, ça peut nous mener à des directions imprévisibles et ça peut conduire à de très bons résultats. Alors, la question, c'est comment collaborer, comment installer ces mécanismes qui vont nous inciter à collaborer.
Donc c'est à la fois au niveau de la modélisation, hein, en théorie, mais aussi en pratique, d'arriver à le faire humainement, véritablement, entre chercheurs, sur tout le continent et au-delà, à faire vraiment des liens.
Tout à fait. Pour inciter les gens, c'est tout un outil. Il y a plusieurs tests, plusieurs tentatives, plusieurs expériences que nous faisons depuis un certain nombre d'années. Et nous pensons que ça, c'est possible de le faire en Afrique, comme partout d'ailleurs.
la coopétition sur laquelle travaille Aminu Tembin en théorie des jeux. J'ai envie de vous demander, professeur Mamafou-Pouanini, si ça vous va comme formule de ralliement de la coopétition, compétition collaborative et coopération compétitive. Professeur Mamafou,
bon. Oui. Donc, j'ai retenu la collaboration compétitive et la coopération collaborative. Oui, je pense que si ça peut permettre d'inciter les gens à travailler ensemble dans un esprit de compétition positive, de collaborer ou de compétir en gardant la collaboration, un peu comme le jeu électoral.
C'est ça.
Ouais. Que pendant les élections, il y a une compétition, mais dans la collaboration. Et le professeur Nicolas Gabriel Antiga, qui est notre expert camerounais de la théorie des jeux, nous a régulièrement entretenu là-dessus.
C'est ça, hein. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait aller dans cette direction-là. En tout cas, quand on vous entend tous les deux, quand on vous entend, Laure Saint-Raymond, vous êtes aussi à l'IHES, qui est là aussi un institut dans lequel mathématiciens, scientifiques, physiciens peuvent passer des heures et des jours à discuter ensemble, à collaborer ensemble. La coopétition, c'est un joli mot, je trouve.
Moi, je suis pas très fan de compétition en général.
Ah ouais.
Je crois beaucoup à la collaboration et c'est vraiment dans cet esprit que je travaille. J'aime beaucoup travailler avec les gens. Je pense qu'on va plus loin à plusieurs. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce que je pense que cette diversité de modes de pensée est quelque chose qui fait vraiment avancer. Je trouve qu'on est dans un système aujourd'hui qui est beaucoup trop compétitif, avec tous les aspects négatifs que ça a, parce que on est dans une espèce de course effrénée à la publication. Il faut aller toujours plus vite. Et encore une fois, je pense que c'est un vrai obstacle à faire une recherche de qualité, parce que plus vite, quelque part, on va pas accepter de perdre du temps pour faire des choses qui sont ratées. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que rater, ça fait partie du jeu, en fait. De passer beaucoup de temps à sécher, ça fait partie du jeu. Alors, c'est sûr qu'on pourrait dire, en termes d'efficacité, c'est pas génial. Mais sauf qu'en fait, après avoir raté beaucoup de fois, on a compris des choses et on va aller beaucoup plus loin. Au lieu de faire une petite avancée qui est une petite décoration par rapport à ce qui existe déjà, ça permet d'aller, je pense, de passer des barrières. Et donc, cette compétition, aujourd'hui, en tout cas, telle qu'elle est vécue, pour moi, elle n'est pas positive. C'est pas juste de l'émulation. C'est en permanence celui qui aura de l'argent dans un appel à projet. C'est celui qui on va vers un système qui est beaucoup plus un star system. Et je crois pas que la recherche fonctionne comme ça. Pour moi, elle est collaborative à la fois dans le fait qu'on travaille avec d'autres gens au même moment, et elle est collaborative aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'on construit sur ce que d'autres ont déjà construit.
Merci infiniment pour cette magnifique conclusion, Laure Saint-Raymond. Je vous remercie, parce qu'on a envie de collaborer, du coup, de réseauter. Si on peut vous y aider, il n'y a pas de souci, vous revenez quand vous voulez. Merci d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon. Et je remercie à la technique à Lyon, Chantal Nouvello. Merci, cher professeur Mamafou-Pouanini. Merci d'avoir été au téléphone avec nous depuis votre université à Yaoundé, au Cameroun. Bonne chance pour votre séminaire sur l'inutile qui ne l'est pas tant que ça, et pour tous les réseaux d'instituts AIMS que vous dirigez. Vous revenez quand vous voulez pour nous en parler en vrai ou par téléphone. Merci à vous deux. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre podcast pour en savoir plus. Merci à Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. On se retrouve demain pour remonter le temps sur les traces du néolithique ailleurs, du côté de la Chine, de l'Amazonie et de l'Éthiopie. À demain. 7 milliards de voix.